Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM et comme chaque dernier mercredi du mois à 17h, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vous proposons de découvrir la programmation de la ferme d'en haut, Maison Folie de Villeneuve-d'Ascq. Avec aujourd'hui deux invités, à ma droite Andy Kraft. Bonjour Andy.
Bonjour.
Et donc il nous parlera d'une exposition qui a lieu bien sûr à la ferme d'en haut du 20 janvier au 2 avril et qui s'intitule, on définira ça bien sûr précisément après, L'hiver te pousse. Ensuite, toujours avec nous à ma gauche, il y a Louis Butte. Bonjour Louis.
Bonjour.
Pour donc la présentation d'un cycle de conférences qui a lieu jusque mars et qui est porté par l'association Découverte, si j'ai bien compris.
C'est bien cela.
Voilà. Donc bienvenue à tous les deux. Alors on peut peut-être voir les choses d'abord séparément, mais n'hésitez pas à interagir. Hein. Vous êtes ensemble dans le même bateau, pirate de Radio Campus. Voilà, Andy Kraft, donc vous êtes artiste hein, et vous avez un amour particulier pour le dessin et le livre d'artiste.
C'est ça, du dessin qui n'est peut-être pas académique ou classique comme on l'entend. C'est un dessin qui est plutôt constant, permanent, plein de supports et qui se développe sur des plein de surfaces aussi. Enfin, c'est pas un dessin comme on l'imagine, même si effectivement il peut être encadré, mais il déborde, il a tendance à déborder la surface.
Alors, j'ai eu l'occasion récemment d'aller visiter l'exposition Alechinsky au musée Kato-Cambrésis, et déjà là, on est dans la matière.
Alors oui, effectivement, Alechinsky, c'est quelqu'un superbe. Il a cette trace qui est aussi déborde, encadre le cadre et déborde du cadre aussi, effectivement. Moi, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui me fait beaucoup rêver dans ses entretraits, justement.
Alors, justement, cette exposition est particulièrement intéressante au musée Matisse, puisqu'elle présente toutes les facettes, en fait, de l'utilisation du dessin sur le support livre, et voire au-delà.
Il a fait beaucoup de publications, beaucoup de choses comme ça, effectivement. J'ai pas eu l'occasion de la voir encore, mais je connais bien son œuvre. Effectivement, ce dessin qu'il se développe sur la rue, avec les plaques d'égout, avec la peinture. Enfin, lui, il travaille à la peinture essentiellement, mais c'est une peinture-dessin, malgré tout.
Mmh. Donc, est-ce que dans l'univers actuel artistique, le dessin et peut-être l'illustration ou l'ornementation, c'est quelque chose qui est très présent?
Je sais pas trop. On voit beaucoup ça dans la rue avec le graphe, bien sûr. Hein. Ça se développe beaucoup. Et puis il y a aussi évidemment la bande dessinée qui a pris ces derniers temps une grande part dans en tout cas les échanges, les expositions, les foires, enfin les choses comme les rétrospectives aussi. Le dessin, c'est compliqué en tant que quand on fait du dessin de se montrer, parce que il y a des grands lieux, mais il n'y a pas beaucoup de lieux qui osent montrer du dessin, surtout quand il n'est pas justement classique académique.
Mm-hmm. Donc à Roubaix, par exemple, il y a une galerie où on trouve assez facilement du dessin dans la rue à côté de la gare là. Je ne sais plus le nom, ça me reviendra. Et donc là, l'idée, c'est de présenter autour du dessin, du livre, donc cette exposition qui aura lieu à la ferme d'en haut du 20 janvier au 2 avril, avec un titre. Alors, moi, je l'ai lu, je me suis posé la question, est-ce que l'orthographe m'a été mal transmise? Mais non, c'est bien cela, l'hiver te pousse, l'hiver te, H-I-V-E-R-T-E.
L'hiver te, oui. L'hiver te pousse, il y a ce double sens qu'effectivement, il te pousse, on pourrait dire l'hiver comme on rentre dedans en même temps, mais en même temps, c'est une forme féminine. Liverte et qui est plus en développement et qui va pousser malgré tout. Liverte, c'est un nom féminin que j'ai inventé parce que j'écris beaucoup à mesure que je dessine et qui nous amène, c'est un petit peu quelque chose qui est là malgré tout à tout le monde. Bon, je ne vous fais pas le tableau, la société est un peu noire, on peut se plaindre de plein de choses, et tout ça, il y a des horreurs aussi autour de nous, et malgré tout, il y a toujours cette petite chose-là qui arrive à ce que la vie continue malgré tout, et repousse même aux endroits. Et l'hiver te pousse, c'est un peu cette... alors avec d'autres idées, on pourrait appeler ça une flamme de l'espoir, je ne sais pas. Enfin, c'est cette petite chose-là qui pousse malgré tout les gens à vivre et à continuer de rêver, d'espérer, de créer. Et donc du coup, cette installation, parce qu'il y a du dessin, il y a des livres d'artistes, mais ça va faire une installation globale dans tout l'espace de la ferme, c'est quelque chose qui prend un sens un peu citoyen comme ça, en disant oui, c'est difficile, mais malgré tout, c'est encore là. Et il faut qu'on se serve de ce qui est là.
C'est vrai qu'on est dans une société, pas forcément seulement en mutation, mais peut-être entre deux rives, entre deux eaux, avec cet hiver peut-être qu'on traverse actuellement dans beaucoup de, on va dire de, voilà, d'aspects, sur beaucoup d'aspects. Donc l'idée de l'hiver, c'est aussi quelque chose... parfois pas d'effrayant, mais qui n'est pas plaisant comme idée, mais néanmoins, si on prend le blé ou des choses comme ça qui profitent de l'hiver pour se développer après l'hiver, on peut imaginer qu'on est dans cette phase là un peu d'attente.
C'est pas forcément la forme du froid, mais c'est un peu la forme sombre que prennent les choses, la forme un peu bleuie comme ça par les événements, mais malgré tout, effectivement, les choses couvent, et on peut supposer que des bonnes choses couvent aussi, justement.
Donc là, on va dire que du 20 janvier au 2 avril, on sera pratiquement à la sortie de l'hiver. Enfin,
voilà, on va vers le printemps, voilà, effectivement.
Parce que les jours rallongent, donc déjà, on peut imaginer que ce qui sera présenté sera dynamique.
Oui, on est sur... les livres d'artistes, les protocoles que j'ai réalisés là et que je suis en train de terminer pour certains, sont dans les choses qui poussent, qui se développent et qui... Je travaille sur une forme d'écriture un peu répétitive, enfin d'écriture dessin répétitive où je vais répéter la même chose. Alors, quand les gens regardent, ils me disent c'est pas la même chose. Ben, c'est quand même l'ensemble de mêmes gestes, c'est la même forme. Alors voilà, un dessin, bon, c'est une chose. Un deuxième dessin, c'est une chose. Prendre un livre, faire 20 pages de la même chose, ça devient 20 fois différent, mais 20 fois la même chose. Et il y a quelque chose qui se passe dans ce toujours la même chose qui moi m'aide à vivre et à créer, mais qui aussi chez le lecteur. Même s'il n'y a pas forcément d'histoire, hein, c'est pas des histoires, lui permettent d'avancer dans cet objet-là. Et...
Donc, Handicraft, on a bien compris, le dessin, c'est aussi une forme d'écriture, et on peut peut-être d'ailleurs aussi revenir à une écriture littérale, sinon littéraire.
C'est le texte qui sera à l'entrée de l'exposition, que j'avais envoyé d'ailleurs à la ferme au début, quand j'ai eu cette proposition, qui est un peu le frontispice de l'exposition, c'est « L'hiver te pousse ». Il vient encore, il sévit et l'hiver te pousse. L'activité est souterraine, elle mine doucement la société du noir ambiant et de la froidure. Les animaux, moins bêtes que les gens, la respirent à chaque carrefour. L'hiver te pousse. Un petit rayon de soleil, une branche qui pointe parmi tant, l'hiver te pousse. Les cache-nez semblent lourds, les jours peinent et s'allongent, l'hiver te pousse. Au fil des pages, on aiguille sur le papier, le bois, avec l'encre ou l'aquarelle, l'hiver te pousse. Je ne sais m'en lasser.
Merci Andy Kraft pour ce beau message en même temps. Alors, peut-être une réaction de notre autre invité, Louis Butte. Alors, on n'est pas dans une conférence ici sur un pays ou une ville ou quelque chose, mais on est sur, on va dire, un espace-temps, un moment de transition, une réflexion au travers du dessin ou du texte. Donc, Voilà, peut-être une petite réaction sur ce que vous venez d'entendre.
Ben effectivement, nous sommes dans un climat quelque peu difficile, on va dire ça comme ça. Et un peu pour rebondir sur ce que vient de dire notre ami, le voyage permet de, ben il permet de continuer à espérer, il permet de rêver. Et je crois qu'on a besoin, pour accepter peut-être ce qui se passe aujourd'hui dans divers domaines, de mieux connaître les autres. Et le voyage permet justement ce rapprochement, il permet cette connaissance. Et puis au final, on peut espérer que, eh bien, on puisse mieux accepter ce qui se passe aujourd'hui dans certains domaines. En tout cas, essayer de comprendre, parce que parfois, les choses sont bien plus compliquées qu'on ne l'imagine. Et effectivement, le voyage est un excellent moyen de... peut-être de compréhension.
Alors, c'est vrai, enfin, vous prêchez un convaincu, hein, je pense même qu'on peut dire que le voyage, c'est une façon de lire autrement le monde.
C'est une façon de lire autrement, mais parfois, il ne faut pas hésiter à vouloir tourner les pages et puis se plonger dans une certaine forme de lecture. Je veux dire par là que chacun a une attente différente du voyage, mais parfois le voyage peut être simplement superficiel. Et ça, encore une fois, il faut respecter les envies des uns et des autres. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se plonger, de se perdre parfois. Et puis avoir envie d'aller au devant des autres. Encore une fois, ce mot de curiosité prend là toute son importance. Si on ne fait que consommer le voyage, à mon avis, on passe vraiment à côté de quelque chose. Et parfois, il ne faut pas avoir peur, sans pour autant avoir préparé son séjour, eh bien, je ne sais pas, de louer une voiture et puis de partir un petit peu comme ça, sans savoir véritablement où on va aller à la rencontre. Et nécessairement, fatalement, on fera des rencontres, et parfois de très, très belles rencontres.
Alors, on parlait d'hiver tout à l'heure, hein, de ce moment un peu pénible, hein, de transition. Hein. Est-ce que le voyage, justement, ne permet pas de ressourcer aussi, d'amener des idées nouvelles et parfois de se débarrasser au printemps d'idées fausses?
Bien sûr, bien sûr. On est aujourd'hui dans un système médiatique qui parfois nous impose des œillères et nous contraint à réfléchir dans une direction et une seule direction. Je crois qu'il faut, il faut aller sur le terrain tout simplement pour se rendre compte par soi-même de ce qu'est la réalité. Enfin, si tant est qu'on puisse vraiment aller au fond des choses, c'est parfois un peu plus difficile qu'il n'y paraît. Mais tout simplement rencontrer et puis se laisser guider. Et effectivement, on s'aperçoit que nos idées, nos réflexions du départ étaient quelque peu fausses. Parfois, on a des choses qui sont très arrêtées dans notre esprit. Et quand on voyage, ça permet un peu de se séparer de ça, de s'en écarter et puis de vivre une fois de plus des véritables moments de bonheur au contact des autres, d'autres cultures, de traditions. Et on est très surpris.
Non, j'ai bien entendu dans vos propos la nuance entre aller quelque part, faire un pays et puis le vivre, le ressentir, voir le comprendre, c'est votre démarche.
Bien entendu, au travers de découvertes, je ne sais pas si je peux parler de découvertes, c'est un cycle de conférences qui aujourd'hui entame sa 26e saison. Nous sommes installés dans une trentaine de villes de la région, et bien évidemment à la ferme d'en haut. Et chaque mois, donc d'octobre à mars, il y a un réalisateur qui vient présenter son sujet, son reportage. Et effectivement, chaque réalisateur a sa sensibilité, a son envie de traiter certains sujets et pas d'autres. Et les conférences se passent de la manière suivante. Il y a un préambule, il y a une présentation, il y a un support image qui dure en général 1h15. Et suite à cela, il y a un échange avec le public. Ça, c'est très, très important de pouvoir partager. Parce que le voyage, c'est acquérir un certain nombre de... enfin de sentiments, de choses comme ça, de connaissances, mais c'est également pouvoir, au travers de ces conférences et de ces rencontres avec le public, pouvoir restituer eh bien, ce que l'on a vécu au travers de nos différents voyages.
Alors, de plus en plus de gens voyagent, je pense qu'on peut le dire. Hein. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Qu'est-ce que les gens en tirent? Est-ce que ça change quelque chose dans la société, le regard des gens sur le monde d'une manière globale?
Bah, que l'on puisse voyager facilement aujourd'hui, moi je pense que c'est un bien parce que s'enrichir, tout le monde a le droit de s'enrichir culturellement. Après, ce qu'il apporte aux populations, bon ça c'est très très discutable. Si on prend le cas d'un sujet qui va passer à la ferme d'en haut, que j'aurai le plaisir de présenter au mois de décembre, donc sur la crête, vous avez au nord, le nord de l'île, qui est un ensemble touristique. Et parfois, on peut avoir l'impression que la population ne tire pas toujours le profit qu'elle pourrait s'attendre tirer d'une certaine forme de tourisme. Bon, quand elle en tire les fruits, c'est très bien, ça contribue à sa façon, enfin, ça contribue à sa vie, à son quotidien. Mais parfois, ce profil lui échappe à cette population, et ça, c'est vraiment dommage. Il arrive que l'on s'interroge sur le bien fondé d'un voyage dans tel pays ou dans tel autre. Bon, ça, c'est à chacun d'apprécier et en conscience de faire ou pas certains voyages dans des zones un peu difficiles où par exemple, la condition de la femme est très discutable. Je pense, moi, j'ai pas d'avis à donner. Chacun a son appréciation à apporter.
C'est vrai que le risque du tourisme de masse... Hein, est... ça se développe dans beaucoup de pays, hein, le tourisme de masse. Je pense à la Chine où ça devient énorme aussi. Hein. C'est évidemment le risque aussi de plaquer dans n'importe quel pays une façon de vivre dans un endroit qui n'a rien à voir avec la vie locale.
Bon, ça aussi, c'est un vaste débat. Effectivement... Quand on voyage, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité. Il faut essayer d'être soi-même. Il ne faut pas essayer de tronquer les choses. Tout le monde peut ne pas avoir le même comportement lorsqu'il voyage. Ben, en ce qui me concerne, moi, j'essaie d'être moi-même. Surtout, être à l'écoute des autres. Pour moi, c'est fondamental. Et puis, essayer de tirer... profit dans le bon sens du terme de ce que l'autre peut vous apporter. Et ça, c'est se nourrir de ça.
Alors, l'approche, on va dire, néocolonialisme du voyageur, où fut un temps où les gens qui voyageaient se considéraient supérieurs peut-être aux populations qu'ils visitaient, est-ce que ça change?
Ça change oui et non, parce que même si certaines puissances ne sont plus ne chapatent plus certains régimes, aujourd'hui ils sont présents d'une autre manière, d'une manière économique et passez-moi l'expression, certaines ficelles sont toujours tirées par ces pays, même si le colonialisme en tant que tel, comme on peut l'imaginer, comme on pouvait le voir à une certaine époque, n'existe plus. Aujourd'hui, ce sont les intérêts économiques qui sont présents et qui dictent leurs lois.
Donc, j'imagine que dans vos conférences, la place à la rencontre avec l'autre, ce qu'on peut appeler l'altérité, hein, c'est quelque chose qui est clé, une des clés de la compréhension aussi.
C'est fondamental. Cette place est essentielle parce que le voyage, par essence, encore une fois, c'est la rencontre avec l'autre et c'est essayer aussi de, parce que si nous posons des questions sur les autres se posent des questions également sur nous. Et essayer d'être le plus honnête possible dans nos réponses. Je me souviens, il y a quelques années, pour être allé, être resté assez longtemps en Afrique du Nord, certaines personnes avaient une... une vision de l'Europe qui, pour nous, était un petit peu tronquée. Donc, on essayait quand même de modérer certaines visions des choses pour leur dire que la réalité ne correspondait pas obligatoirement à ce qu'ils supposaient être. Est-ce qu'elle supposait être ?
Alors, c'est vrai que pour les gens qui interrogent les autres ou qui interrogent des pays pour peut-être comprendre aussi ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'il y a des idées qui peuvent en émerger, c'est peut-être aussi un risque de se remettre en cause personnellement.
Bien sûr, c'est aussi une façon de peut-être de concevoir les choses autrement et d'adopter une attitude un peu plus juste, pourquoi pas, bien sûr, oui.
Donc au-delà du risque, il y a aussi le plaisir.
Bien sûr, il y a le plaisir. C'est, encore une fois, quand on voyage, quand on est réalisateur, la partie la plus intéressante du reportage, c'est le voyage. C'est indéniable. Bon, je ne vous cache pas que quand on fait du reportage son métier, on est quand même soucieux d'un certain nombre de paramètres techniques concernant son film, la prise de vue, le son. Mais on ne perd pas de vue qu'on est là pour une chose essentielle, encore une fois, c'est aller au devant des autres et prendre le plaisir que cela peut engendrer. Bon, après, dans un second temps, évidemment, il y a les conférences, les rencontres avec le public. Bon, ça aussi, c'est très, très intéressant. Et ce qui est important aussi, c'est le témoignage. Quand vous avez des personnes qui viennent voir tel ou tel sujet, c'est parce que peut-être elles ont envie d'aller dans le pays qui est présenté, enfin, pays, ville ou région, et nous sommes là pour leur apporter aussi les renseignements que ces personnes désirent pour préparer leur voyage. Et ça aussi, c'est très important.
Alors, effectivement, on imagine que dans la vie d'un homme ou d'une femme, bien sûr, il est difficile d'aller partout, dans chaque pays. Donc, que choisir ?
Je crois qu'au fond de soi, chaque individu a un peu sa terre de prédilection. En ce qui me concerne, je sais que les pays du Nord ne m'attirent pas trop. J'aime beaucoup les pays méditerranéens, bon, peut-être parce que j'ai du sang méditerranéen qui coule dans mes veines. J'aime bien la chaleur, j'aime bien toute cette culture qui, ce sens de l'hospitalité, c'est vraiment formidable. Et ça, c'est, on y est très très sensible à ce sens de l'hospitalité. Et nous, si on pouvait rendre un début de commencement à notre niveau vis-à-vis de certaines personnes qui arrivent chez nous un petit peu désœuvrées, ce serait très bien. Et puis, on a des paysages qui nous marquent lorsqu'on voyage. Je me souviens de voyages au Sahara. J'ai eu le plaisir, la chance, le bonheur d'y aller à plusieurs reprises. Quand vous êtes dans le Hoggar, par exemple, vous avez des paysages que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Et ça, fatalement, un jour ou l'autre, vous avez envie d'y retourner. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, même pas peut-être, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a certaines choses qui s'y passent. Mais On a tous des images qui reviennent et des envies par rapport à certaines cultures et pas à d'autres qui nous intéressent un petit peu moins. Bon, c'est comme ça. Les choses sont faites ainsi, je pense.
Peut-être aussi au niveau de la philosophie, on va dire. Par exemple, si vous prenez le cas du Sahara, que je ne connaissais absolument pas, hein, mais disons que dans cet endroit très hostile à la vie, que des gens aient pu y vivre et continuent, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel sur ce que l'homme est capable de vivre, comment il peut s'adapter et ce qu'il peut aussi y amener dans ces contrées complexes.
L'homme s'y adapte un peu par, bien sûr, par obligation, par la force des choses. Et puis, bon, il y avait les parents, des parents, etc., qui vivaient dans ces milieux hostiles. Mais sont des milieux qui sont fragiles, mais où il y a une simplicité. Il n'y a pas... Bon, c'est banal de dire ça, bien entendu, mais il n'y a pas d'artificiel, il n'y a pas de superflu, il n'y a que de l'honnêteté, il n'y a que des rencontres vraies, il y a que du plaisir à prendre, il y a un dénouement, c'est...
Peut-être un avantage aussi, c'est que on est obligé... L'obligation de vivre avec ce milieu-là fait qu'on le respecte plus, qu'on est plus à son écoute, qu'on est plus... Alors que nous, ici, comme on peut avoir tout le temps, on pollue, on maltraite, etc. Alors qu'effectivement, dans un milieu comme ça, les gens, ils ont cette simplicité-là des éléments naturels, cette beauté-là propre à la... Enfin,
Oui,
j'imagine que ça vient de là aussi et que du coup, effectivement, c'est fragile, mais en même temps, c'était d'une beauté naturelle et belle et juste.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on trouve un pays, une région, un endroit beau ?
Je crois que c'est par rapport à ce que l'on a à l'intérieur de soi. Il y a des paysages qui nous parlent, qui vont vous parler. Moi, ça ne va pas trop me parler. Et je pense que les choses sont ainsi. On est plus attiré vers certaines formes de paysages. Bien entendu, par rapport à son vécu aussi, par rapport à ça, je reviens aussi à ça, par rapport à sa sensibilité, par rapport à ses lectures aussi, puisque ce sont au préalable les lectures qui nous enrichissent. Alors, est-ce que vaut-il mieux... De toute façon, en tant que réalisateur, bien entendu, on lit avant, c'est évident, on a besoin de nourrir son voyage, parce que il faut savoir ce que l'on va faire, il faut savoir quel contact on va avoir sur place. Mais parfois, on sent quand même qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on a lu, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a supposé, et puis ce qu'on va découvrir sur le terrain. Donc, faut peut-être parfois pas trop s'imprégner, se nourrir d'images lors de lecture. Mais néanmoins, il faut avoir quand même une information. C'est pas toujours évident. Il arrive parfois que l'on est un peu déçu.
Alors, au-delà du beau, est-ce que parfois on n'est pas surpris et intéressé davantage par le riche en termes de culture, de ressources ?
Par le riche,
c'est-à-dire ? Par la richesse des endroits qu'on visite et on se dit « Oh, il y avait ça, il y avait une vie avant nous, il y avait des choses qui étaient déjà en germe dans ce qu'on vit maintenant ».
Oui, bien sûr. Après, le voyage nous amène à trouver un contact sur place qui, lui, eh bien, va vouloir nous emmener vers un site à découvrir, vers une fête où on va être invité. Et là, évidemment, on est en face de choses qui n'avaient pas été prévues dès le départ. C'est aussi le petit intérêt du voyage. Mais, En tant que, je reviens là-dessus, en tant que réalisateur, on va peut-être un peu plus chercher que le commun des mortels qui va faire un voyage, tout simplement pour se reposer d'une année de labeur difficile et qui va pas être dans l'obligation de fouiller comme nous, on peut être obligé de le faire. Et à partir de là, parfois, eh bien, il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a une seconde un peu plus loin qui va également nous permettre d'aller vers des sujets qui n'étaient pas prévus au départ. Bon, c'est également l'intérêt de la chose.
Alors, il y a quand même dans toute cette histoire de voyage la problématique de la langue. Est-ce que vous n'échappez pas à ces difficultés ?
Enfin, en ce qui me concerne, je ne suis pas très très doué. Bon, je me débrouille en anglais, un petit peu en italien. Mais lorsque nous sommes partis, Jean-Claude Sadoane et moi-même, la première fois, nous sommes partis pendant 13 mois du Sahara à l'Himalaya. Et nous avons vécu plein de choses vraiment formidables, parfois sans pour autant avoir nécessairement une langue commune. Moi, je crois que celui qui a envie de voyager, ben, il s'en va sans trop se poser de questions quant à la langue qui peut être une barrière, un obstacle, ce que font malheureusement certaines personnes. Et vous pouvez être amené à vivre des choses fantastiques sans, encore une fois, parler la même langue que votre interlocuteur. Et ça, c'est du vécu.
Andy Kraft, justement, par rapport à la communication, est-ce que le dessin ou quelqu'un qui le maîtrise n'aurait pas un avantage, justement, dans la communication avec l'étranger ?
J'avoue que j'ai eu la chance de passer un mois au Japon, dans une partie montagneuse où il y avait assez peu d'étrangers. Eux ne parlaient pas bien l'anglais, et moi pas le japonais. Et donc le dessin m'a beaucoup aidé tout le temps. Mon carnet était plein de croquis qui permettaient d'expliquer, d'arranger. Mais après, c'était pas forcément... ça n'a pas besoin d'être un dessin académique. Hein. Le logotype, les objets sont... Mais ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Et le fait que j'étais aussi assis sur un banc à dessiner... faisait que les gens venaient me voir très souvent, parce qu'effectivement, ça c'était quelque chose d'assez rare, et du coup, ça, c'était un vrai moyen de communication, là, pour le coup.
Alors, au-delà de la communication, est-ce que si le fait de dessiner, donc de capter des situations, des expressions, pourquoi pas, ça vous donne, en quelque sorte, une façon d'écrire un livre sur place que vous ramenez et que vous pouvez après réinterpréter ?
Alors ça, là, on rentre dans une autre catégorie qui est celle des carnets de voyage, hein, qui aujourd'hui est une grande pratique aussi. Il y a des festivals à Clermont-Ferrand, là, il n'y a pas longtemps, sur les carnets de voyage. C'est un autre type de rapport à l'écriture et à l'observation. C'est vrai que j'ai fait ça aussi. Enfin, dès que je voyage n'importe où, même au milieu de la Bresse ou du Jura, je le fais aussi parce que c'est aussi, il y a des nouvelles images, il y a des nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude et qui donnent envie d'être dessinées ou d'écrire ou des mots. Moi, c'est les mots, surtout les expressions. Les gens disent des choses que l'oreille n'a pas l'habitude d'entendre et qui sont d'une poésie fabuleuse. C'est un autre type, effectivement, mais je m'en sers, mais je les montre pas. Ça, c'est pas des choses que j'ai beaucoup exposées.
Non, j'ai vu il y a quelques années à Lille Art Fair, à l'époque, quelqu'un qui faisait des livres de voyage, mais dans ses livres, il y avait la matière physique qu'il ramenait de ces pays-là, et il en faisait des pages très très belles, hein, d'un point de vue plastique, et chaque livre avait un thème, soit un pays, soit un endroit, où justement le matériau qu'il trouvait, ça pouvait être des plumes de ceci, ou des objets, des petits objets, qu'il réinsérait dans chaque planche, on va dire, pour en faire un carnet de grande dimension. Et c'est vrai que chaque carnet de chaque voyage avait une identité très particulière. Je trouvais ça assez remarquable. Je ne sais pas si on le retrouve encore, mais il est allé en Inde, etc. Je pense même qu'il est d'origine indienne. Et donc voilà, des façons de réinterpréter le monde ou de témoigner aussi de ce qui a été vécu, des choses qui sont intéressantes.
Alors ça, c'est sûr que dès qu'on est un petit peu hors de chez soi, on est voyageur et donc on est suscité par l'inconnu, le différent, le plus, enfin l'exotique aussi, enfin toutes ces choses-là. Mais si vous venez à la ferme d'en haut pendant l'exposition, vous verrez que je fais ce travail-là sur du quotidien, c'est-à-dire que j'ai des carnets où, je sais pas, par exemple, y en a un où chaque fois que j'allais dans un café, boire un café, on me donnait un sucre emballé d'un petit papier. Là, vous savez, aujourd'hui, cet hygiénisme effréné fait qu'on emballe même les morceaux de sucre. Eh bien, avec un petit morceau de ce papier de sucre, je le collais sur ma page et chaque fois, j'en faisais un nouveau dessin. Et la prise d'objets de l'extérieur, c'est un peu collection de choses qui vient vers vous, qui ne sont pas les vôtres, mais qui vient vers vous, me servent, moi, beaucoup à créer de nouvelles images. Et justement, la collection permet de faire 100 fois 100 pages ou 200 pages à partir d'un élément comme ça. Il n'y a pas forcément... Le voyage, il commence dès qu'on... Enfin, là, en ce moment, puisque je suis en résidence sur le quartier de Pont-de-Bois, je vais travailler avec plein de la maternelle jusqu'au lycée au quartier de Pont-de-Bois pendant la résidence que je fais à la ferme d'en haut. Et j'avais déjà traversé le quartier plusieurs fois, mais pas de cette façon-là. Il a aussi des choses très exotiques qui vous amènent à voyager. En fait, finalement, le voyage, c'est quel temps, hein. C'est une histoire de temps, je crois, en fait, aussi. C'est quel temps on va mettre, et tout d'un coup, simplement en allant au marché, vous pouvez prendre un temps différent à regarder. Alors, oui, le ciel bleu, les petits bourgeons, tout ça, bon, ça, c'est les gens. Mais tout d'un coup, simplement les façades ou les gens qui sont... Comment les gens regardent par la fenêtre ou quel... Et le voyage, il peut être... alors, il y a les voyages immobiles aussi, ça, c'est encore autre chose. Mais le voyage, c'est pas forcément tout de suite aller très, très loin. Je crois que c'est essentiellement, et c'est ce qu'on retrouve à l'étranger aussi, c'est l'autre. Enfin, c'est rencontrer l'autre.
Alors justement, rencontrer l'autre, c'est aussi, au-delà de ce que vous captez, hein, la façon aussi de le présenter à des publics. Est-ce que le fait de présenter des dessins ou de présenter des vidéos, des photos, de voyages, ce n'est pas aussi parfois une occasion de retrouver, de trouver d'autres choses dans ce que vous êtes allé voir par justement la médiation avec le public qui vous permet de remarquer qu'à un moment donné, il y a ça là et vous ne l'aviez peut-être pas vu comme ça et on vous fait remarquer des choses qui vous font encore réfléchir sur ce que vous avez vécu.
C'est vrai que parfois, on est amené à être enfermé. Quand on présente des reportages, on a toujours, enfin en tout cas, on a un film qui défile sur l'écran et parfois on a tendance effectivement à ce film nous impose un cadre. Enfin, je m'exprime un petit peu mal, mais on a toujours
un
format, bien sûr. On a toujours les mêmes images et il m'arrive de ne pas regarder le centre de l'image et puis d'aller chercher un petit peu des détails en haut, en bas, à droite, à gauche, pour sortir un petit peu de cette image qui m'était imposée justement par ce format, justement pour trouver d'autres éléments qui puissent nous nourrir et peut-être nous amener à sur une image donnée, à réfléchir sur autre chose que l'image qui nous est renvoyée par l'écran. Enfin, peut-être je suis un peu confus là, mais effectivement, il faut continuer à chercher. Et je suis tout à fait d'accord avec vous en disant que le voyage, ce n'est pas simplement aller très loin. Moi, j'essaie de voyager une fois que j'ai passé la porte de ma maison, de regarder bien de la nature, bien entendu, mais effectivement, parler un peu avec mon voisin, essayer de regarder ce qui se passe de nouveau chaque jour. Et le voyage commence assurément à la porte de chez soi.
Oui, c'est quelque chose que j'adore, ça, travailler avec les gens. J'ai fait, là c'est un peu le cas sur le quartier de Pont-de-Bois, des résidences avec des gens qui ne sont pas spécialistes en art, qui n'ont pas la fréquentation habituelle, qui n'ont pas même le langage pour parler d'œuvres d'art, mais qui tout d'un coup sont capables d'exprimer, de dire j'aime ça ou j'aime pas, mais déjà c'est quelque chose d'assez... parce que les gens s'arrêtent pas là. Et j'aime bien parce que ça me rappelle... Et l'histoire se raconte. Et en tant qu'artiste, c'est quelque chose que j'adore. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se passe une fois que j'ai produit l'objet. Mais ça me nourrit aussi dans cette production-là.
Est-ce que vous considérez que vous avez de la chance d'avoir ce don du dessin pour aussi vous amener des clés de compréhension du monde ?
Non, je sais pas quelque chose que je dirais comme ça, parce que franchement, c'est pas un dessin. Le don vient d'un quelque chose d'académique. Enfin, pour moi, en tout cas, un dessin qui... Voilà. Vous me demandez de dessiner un chien, je vais vous dessiner un chien et on saura tous les deux que c'est un chien, ça ressemblera à un chien.
Mais moi, si je dessine un chien, vous aurez de peine à l'imaginer.
Mais si, vous mettrez quatre pattes et une queue des oreilles et on saura que c'est un chien, il n'y a pas de souci. Après, on saura peut-être pas la race, pas comment il s'appelle, mais c'est pas grave, l'essentiel. Vous voyez, c'est pas. Et pour avoir fait des expériences comme ça, tout d'un coup. Mais bon, il se trouve que aussi, c'est un petit peu lié au côté sombre dont je parlais tout à l'heure. Notre société n'est pas dans cette direction-là. On ne demande pas ça aux gens. Hein, on leur demande un peu d'aller tout droit et de consommer et puis un peu de se taire. Et que donc, du coup, c'est compliqué. Donc, même devant les objets, du coup, alors où j'ai la chance, c'est de pouvoir faire ça et de le faire tout le temps et d'en vivre. Ça, oui, c'est une vraie chance. Mais après, l'histoire du don, tout ça, non, ça c'est. La chance, c'est effectivement d'avoir des lieux comme la ferme d'en haut pour exposer ça, rencontrer des gens. Ça, oui, ça c'est une vraie chance.
Allez-y. Donc je disais, vous parliez de se taire dans cette société apparemment libre. Vous avez l'impression d'une fermeture, justement, l'expression ?
Écoutez, si on regarde un petit peu derrière, alors moi je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, il me semble qu'il y a eu un moment où on a eu plus de possibilités d'expérimenter, de partir dans tous les sens. Aujourd'hui, même si il y a des choses nouvelles qui se font dans l'art, alors que ça soit en art plastique, que ça soit en musique, que ça soit en art vivant, il y a plein de choses nouvelles. Et en même temps, y a un truc qui revient tout le temps, c'est la notion économique, et que ça, c'est quelque chose qui ferme partout, alors qui ferme et pour les créateurs et pour les gens qui consomment. Enfin, et les gens, voilà. D'ailleurs, vous voyez, le vocabulaire me fait dire même qui consomme. Est-ce qu'on consomme de la culture, de l'art? Oui, je crois qu'effectivement, on en a moins, mais en tout cas, à mon sens, ça n'a pas la valeur que ça devrait avoir.
Est-ce qu'alors, à l'occasion de Noël, c'est pas le moment de faire de jolis cadeaux ?
Oui, pourquoi pas ça. Ben là, il y a, par exemple, si vous avez cette envie-là, il faut aller, il y a la Nuit des Arts à Roubaix, là, qui est le week-end prochain, avec... Small is Beautiful au non-lieu, par exemple, ou le quartier des modes à la piscine, où là, il y a effectivement des créateurs qui ont œuvré pour cette partie-là, par exemple. Ça, effectivement, c'est le moment.
Merci, Andy Kraft. Et donc, peut-être, Louis Butte, par rapport à ces idées de voyage, aussi un beau cadeau à choisir ensemble en voyant une de ces présentations.
Mais c'est peut-être que dire... Les réalisateurs ont des DVD de leur réalisation, donc ce peut être l'occasion de faire un cadeau et puis d'apporter le voyage à des personnes qui n'auraient peut-être pas l'idée de se déplacer, de prendre un avion ou que sais-je pour aller visiter un pays. Tout le monde a plus ou moins chez lui un DVD de salon et rêver déjà chez soi, c'est un bon début.
Voilà, à partir
pour avoir
de
envie.
Cela, et pourquoi pas, et plus si affinité.
Et plus si affinité, oui.
Merci pour tout, et donc bonne continuation. On sera très heureux de découvrir, donc, je rappelle, on va dire dans l'ordre peut-être, le mardi 13 décembre à 20h, conférence donc sur la crête, donc bien sûr à la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq, avec d'autres conférences qui auront lieu jusque mars, il faut le préciser, par l'association Découverte. Et ensuite, donc Andy Kraft qui exposera à la ferme d'en haut du 20 janvier au 2 avril avec cette exposition Hiverte Pousse. Hiverte Pousse. Merci à tous.
Merci. Merci.